Cette semaine, nous vous proposons à l'écoute tous les jours Mémoire de Buchenwald, une série en 6 épisodes de 20 minutes par Claire Latchag du collectif Transmission, réalisée avec Pauline Blanchet et ses élèves du lycée Utrio de Stain dans le 93. Mémoire de Buchenwald raconte comment ces adolescents sont partis sur les traces des descendants et descendantes de survivants des camps de Buchenwald et de Ravensbrück pour les interroger sur la transmission de cette histoire au sein de leur famille quand ils étaient eux-mêmes enfants ou adolescents. Comment transmettre la mémoire de la déportation après que les derniers survivants sont disparus ? Témoignages et making-of s'entrelacent et laissent entendre les élèves qui s'approprient l'outil radiophonique et deviennent à leur tour passeurs. Leur quête les mènera sur les traces de Michel Boitel, résistant oublié de l'histoire, qui a sauvé Stéphane Hessel en lui donnant son identité. Il est temps de lui rendre hommage. Épisode 5, ce qu'il nous reste.
Alors, si vous arrivez à voir, ça, c'est les déportés jetaient du wagon des petits mots sur la voie ferrée pour dire qu'ils partaient. En wagon, à destination inconnue, bon Beauchard et moral, remerciements aux cheminots, Compiègne, le 17 mai. Et au dos de ce petit mot, la liste des déportés en donnant l'adresse des autres. Prévenir famille, nous sommes des camarades, prisonniers de guerre, vous voyez, ça m'émeut un peu.
Alors, ce que je vous demanderais, c'est d'être évidemment extrêmement précautionneux par rapport à ces documents. Donc vous remettez bien les pochettes dans l'ordre, d'accord ? Bah c'est parti, vous pouvez y aller, vous pouvez ouvrir la boîte.
Ils ne rapportaient pas beaucoup de choses, les gars. Hein. Ils n'avaient pas l'occasion.
Bon, tu vois pas, c'est le suspense. Ces documents, ils sont plus vieux que toi et tes parents. Faut quand même profiter.
Oh,
ah, j'en veux.
Quand je suis arrivée, moi, en 1995, beaucoup de déportés étaient déjà morts. Et il en restait très peu qui pouvaient me raconter. Donc, quand on fait une recherche, il faut ouvrir ses oreilles, mais il faut prendre partout.
Assistance extérieure, BCRA, généralisée.
Mémoire de Buchenwald. Un documentaire des terminales germanistes du lycée Maurice Utrillo à Stain, accompagné de Pauline Blanchet et Claire Latzag.
Grande question, est-ce qu'on peut être témoin de témoins ? Il y a une partie non transmissible. Il manque les mots. Alors comment transmettre ?
Épisode 5. Ce qu'il nous reste.
À notre retour de Weimar, nous avons recherché les traces que l'histoire de la déportation avait laissées chez nous, à Stain, avec l'aide du professeur d'histoire, Fabien Pontanier.
Donc, je m'appelle Fabien, je travaille ici. On est donc à Pierrefitte, et vous avez Stain, le site des Tartres, qui est juste derrière. Et le bâtiment des Archives Nationales, qui date de 10 ans, cette année, 2023, est venu s'implanter ici. Alors, on vous a parlé un petit peu en histoire, hein, de ce système concentrationnaire, très administratif, où on produit beaucoup de documents, où on liste énormément, et finalement, même s'ils ont beaucoup détruit, les Allemands, il y a beaucoup de documents qui ont été conservés, avec notamment beaucoup de cartes. On a des documents papier qui sont très nombreux, on a des lettres, des plans, des photographies très nombreuses, des cartes postales. Vous avez une diversité de documents qui est très importante.
Donc voilà un exemple de lettre.
Dominique Durand.
Je suis à Buchenwald depuis le 14 mai. Nous sommes très bien installés, mon cul, oui. Mais il est obligé de dire ça. S'il ne met pas, ça sera censuré, quoi, voilà. Moi, je garde comme ça des choses que je trouve sur Pierre Durand. J'en trouve encore maintenant. Hein. Par exemple, il passe 4 mois en prison où il est affreusement torturé. Il dit ça, affreusement torturé. Et mon père ne s'était pas lavé ni rasé pendant 4 mois. Donc il avait les cheveux longs, les ongles grands comme ça. Et j'ai un témoignage. Donc ce qu'il disait est vrai. C'est ça aussi mon boulot, c'est de vérifier.
Alors ça, c'est des photos. Je digresse.
Dominique Orlovski.
Georges Angély, il était photographe de métier. Donc lui, il prenait les photos d'identité des déportés quand ils arrivaient. Mais il développait aussi les photos des SS, et donc il a aussi planqué des photos compromettantes, on veut dire, des SS. Et puis un jour, il a décidé, au péril de sa vie, d'aller faire des photos à l'intérieur du camp. Donc il a pris un appareil photo. C'est pas les nôtres, hein, clic-clouc, hein, c'est de l'argentique, il faut tourner la bobine et tout. Et il va avec un certain nombre de copains à lui. Donc il y en a un, il met un journal devant. Il y en a deux autres qui font semblant de se battre. Et pendant ce temps-là, il prend des photos. Et donc il a pris une douzaine de photos du camp, avec le fameux arbre de Goethe, qui n'était pas encore brûlé, puisqu'on est en juin 1944 et qu'il a brûlé en août 1944. D'accord ? Vous me dites si on veut faire pause ? Non ? C'est bon ?
Achtung, Nanette ! C'est ce que me disait ma belle-mère, qui a été déportée à Ravensbrück. C'était les cris de ralliement quand la SS arrivait dans l'atelier où ils étaient obligés de travailler. Il y en a une qui criait « Achtung, Nanette !»
Georges Beauchemin.
Votre belle-mère a-t-elle rapporté quelque chose ?
Non, elle n'a rien rapporté. D'abord parce qu'elle était dans un commando et qu'à la fin de la guerre, les Allemands, pour se débarrasser de tous les détenus et donc de tous les témoins de leurs exactions, ont lancé ce qu'on a appelé les Todesmarsch, les marches de la mort, c'est-à-dire qu'ils vidaient les camps et ils mettaient les détenus en colonne à pied et ils les faisaient marcher jusqu'à ce qu'ils meurent. Et durant la marche, elle a réussi à s'évader avec une copine. Et ils ont survécu dans la forêt pendant une semaine en mangeant des racines et ce qu'ils trouvaient avant d'être libérés par l'armée rouge. Donc tout ce que j'ai d'elle, c'est les papiers qu'on lui a remis une fois revenu en France. Le bon avec lequel on lui permettait d'avoir 100 francs, au moins d'argent de poche. On lui donnait des vêtements, on lui donnait des aiguilles, du fil, 5 mètres de tissu pour qu'elle puisse se confectionner une robe, et etc. Et ses papiers d'enregistrement, et ensuite ses cartes de déporté. Et ce que j'ai d'elle, c'est un témoignage écrit sur sa résistance.
Quand j'étais enfant, j'avais sur un mur de ma chambre...
Franca Günther.
J'avais un tapis sur lequel j'avais accroché des choses qui étaient importantes dans ma vie d'époque. Et mon grand-père, il a voulu que j'accroche avec les choses qui me sont importantes un poème. C'était le chant des déportés de Bourdouane. C'était une chanson, une marche que les SS de Buchenwald avaient commandé aux détenus, aux déportés qui étaient là, pour la marche des commandos qui partaient le matin au travail. Et on ne comprendra jamais pourquoi les SS ont accepté les paroles, parce que la chanson se termine « Denn eines Tages sind wir frei », puisque un jour on sera libre. Ça a donné beaucoup de force morale aux déportés pour survivre.
Vous m'entendez, vous ?
Oui, oui,
oui,
totalement.
Ah, là, c'est beaucoup mieux. Donc, Madame Blanchet m'a dit qu'il y a des élèves qui avaient retrouvé des documents appartenaient à Stéphane Hessel.
On a retrouvé...
recommence la phrase que vous m'entendez parler en même temps.
Quand on a visité le musée à Buchenwald, dans une des vitrines, il y avait aussi une photo de Stéphane Hessel avec ses collègues, je pense. Et à côté, il y avait une petite feuille déchirée avec plein d'informations liées à Michel Boitel qu'il avait pris pour en fait les apprendre et reconstruire son identité.
Fin septembre 44, c'est-à-dire à un moment où on pensait que la guerre allait finir très vite.
Anne Hessel.
Il y avait 37 officiers qui sont arrivés, condamnés à mort. Et donc la résistance du camp a décidé de sauver 3 officiers et leur donner l'identité de gens qui étaient censés mourir du typhus assez rapidement. D'abord, il fallait convaincre le médecin SS Ding Schuller
qui dirigeait le pavillon du typhus que s'il acceptait de faire cet échange d'identité, eh bien, les trois officiers sauvés s'engageaient à porter témoignage de son implication dans un sauvetage de déportés. Edding Schuller a accepté. Pour réaliser leur hospitalisation, on leur faisait une injection de lait qui provoquait une fièvre énorme et qui permettait de les déclarer atteints du typhus. Et donc, mon père, Stéphane Hessel, il a pris l'identité d'un résistant, Michel Boitel, qui avait participé au sabotage de moteurs d'avion et donc avait été transféré à Buchenwald en punition de ces sabotages.
Oh, moi, je l'aime trop, Anne Hessel. En fait, moi, j'aime bien les personnes âgées, déjà de base. Et du coup, je leur parle, je parle beaucoup aux personnes âgées. Et,
bah, je confirme.
Anne Hessel, elle m'a trop intéressée. Elle était trop intéressante, elle connaît plein de choses. On voyait qu'elle était touchée et ça rajoutait une, pas une vérité, parce qu'on sait que c'est vrai, mais ça nous... C'est réel, quoi.
Et qu'est-ce que ça... Comment s'est passé votre retour?
Bon, je sais pas, on a raconté à nos parents.
Bah moi, j'ai voulu raconter à ma mère, mais ma mère, elle a pas trop... Si elle m'a écouté, je lui ai raconté mon voyage et tout, mais quand je lui racontais vraiment les souffrances qu'ils ont vécues, bah elle a eu du mal à écouter.
Pareil. Ma mère a dit, laisse-moi tranquille. Non, en fait, je pense... Nous, on l'a vu. Elle, nous, on lui raconte. Nous, on raconte à nos parents, c'est pas pareil.
C'est comme nous quand on nous racontait avant d'aller au voyage.
C'est pas pareil.
Tu me stresses trop, arrête de m'interviewer.
Tu regardes pas ?
Ok, ouais. Attends.
Prise numéro 11. Toute l'année, nous avons travaillé sur les parcours de résistants venus de partout. Des Français, des Belges, des Autrichiens et même des Allemands. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux résistants stanois, à l'histoire de la résistance dans notre ville de Stain. C'est notre ancien professeur d'histoire de collège, Monsieur Pontanier, qui va nous guider dans ce parcours mémoriel.
Vas-y, c'est bon. C'est bon.
Donc depuis plusieurs années avec des élèves du collège et puis à travers différents projets, on a commencé finalement à identifier un petit peu, à lister tous les Stanois, Stanoises qui avaient été engagés dans la résistance et qui ont été déportés. Et aujourd'hui, on arrive à peu près à 37 ou 38 personnes, essentiellement à Buchenwald pour à peu près, je dirais, un quart. Et puis pour les femmes, c'était le camp de Ravensbrück. Voilà. Et donc cette mémoire, elle est présente dans la ville à travers la toponymie ou l'odonymie, c'est-à-dire les noms des plaques de rue. Et justement, le petit parcours qu'on va faire, on va aller voir un petit peu la mémoire qui est présente dans notre ville. On va voir que finalement, sous nos yeux, on a cette mémoire de ceux qui ont été appelés martyrs communistes qui est présente.
Monsieur Pontanier, là, on va aller voir une pierre. Non, on va aller voir une plaque commémorative.
On y va ?
C'est où ?
C'est vers l'église, un petit peu après.
Appel en cours.
Je suis plus sonnée, tu sais.
À Stain, nous avons rencontré Stéphane Lopez.
La porte est ouverte.
Directeur de la résidence senior Allende.
Bonjour.
Je peux vous aider ?
Nous avons rendez-vous avec Monsieur Lopez.
Ah, d'accord.
Et arrière-petit-fils d'André Carès.
Bonjour tout le monde. On va se mettre dans la salle d'animation, comme ça on aura plus de place.
Mon arrière-grand-père, en fait, lui, il était prisonnier politique. Il a été conseiller municipal avant la guerre. Et après, bon, bah, il y a eu le gouvernement de Vichy, tout ça. Bon, ils ont tous été destitués. Il a été emmené dans le sud de la France, dans des mines de sel. Et c'est ensuite, il a été déporté à Buchenwald. Donc là, il y a sa veste qui était vraiment bien... Et qui est resté bien. Et puis il y a ces salles, les chaussures, voilà. Ouais, vous rendez compte à faire 40 km avec ça? C'est voilà.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a raconté ça pour la première fois?
Bah, j'étais jeune, donc je pense qu'on me le racontera aujourd'hui, j'aurais plus d'émotion. Enfin, surtout plus grand, en fait, on se met à sa place. Donc il est né en 1900, quand c'est arrivé, c'était en 4, bah, il avait 44 ans. Moi j'en ai 52, donc c'est vrai que quand j'ai eu 44 ans, je me disais, oh là là, il a vécu ça. Donc je me suis rendu compte que à cette période, il était père de famille, il était loin de sa famille. Et toutes les angoisses qu'on peut avoir à ce moment-là, voilà, je les ai ressenties à ce moment-là. Et je regrette parce que c'est vrai que j'étais pas assez curieux à l'époque. Ah, donc vous, soyez curieux. Soyez curieux. Soyez curieuse.
Alors
vous voyez, il y avait le petit triangle rouge qui indiquait que c'était un prisonnier politique. F français. D'ailleurs, je ne sais pas si je la garderai. Peut-être que je la donnerai dans un musée, parce qu'à un moment donné, c'est dommage, quoi. Voilà, il faut ça appartient à l'histoire après. Je pense que ça ne vous appartient plus.
Hey, mais les profs, je te dis, ils ont des trucs dans les pieds, voilà. Ils marchent trop vite. Ils savent très bien que nous, les jeunes, on est à la traîne. Pourquoi ils marchent vite comme ça? Sana, j'avance parce que je dois interviewer Monsieur Pompon. Ah, désolée, je l'appelais Monsieur Pompon. Mais sauf que quand je l'avais en quatrième, on l'appelait comme ça. Du coup, bah voilà. On a fait un détour.
Non, vous aviez... non, là, on est... donc, là, c'est la rue Robert-Vigne, celle-là. D'accord. Et donc, normalement, vous aviez une plaque qui commémorait justement... Ah, je vais vous montrer si on a un petit peu d'ombre.
Et du coup, elle y est plus?
Je pense que, tu vois, tout ça, c'est neuf. Et je pense qu'ils ont profité pour enlever la plaque.
Disparition d'une plaque.
Tu vois, c'était marqué « Ici vécu Robert-Vigne, capitaine FTPF, donc franc-tireur partisan français, mort pour la France dans les bagnes nazies 1912-1945 ».
Je sais plus où elle est.
Et en fait, y a beaucoup de plaques qui étaient présentes et qui, en fait, pour des raisons, généralement parce qu'elles ne sont pas entretenues, ils les enlèvent, mais en fait, elles ne sont jamais remises. Il y avait une rue pour un autre déporté de Stein, de Genka. Enfin, lui n'a pas été déporté, il a été fusillé, qui est un peu plus loin vers le collège Neruda. Et en fait, c'était une plaque justement qui commémorait sa mémoire, parce qu'il est fusillé au Mont-Valérien. Alors, Genka, il gravitait autour du groupe Manoukian, dont on a beaucoup parlé.
La fiche rouge.
Exactement, la fiche rouge. Et puis, Manoukian, ils en ont parlé récemment aussi, parce que du coup, il va entrer au Panthéon avec sa femme. Et donc, Genka a visité Stein. Et en fait, vous aviez une plaque, et cette plaque, elle est tombée, parce qu'elle n'était pas entretenue. L'habitant l'a récupérée. Et en fait, elle n'a jamais été récupérée. Même si là, on est sur la mémoire communiste, donc qui était très présente dans la ville, finalement, on voit bien aussi, aujourd'hui, que ça intéresse quand même de moins en moins. Ça fait partie de ces éléments, un petit peu, avec une mémoire qui s'efface aussi, quoi.
Et votre grand-père a-t-il gardé des séquelles ou traumatismes de son emprisonnement?
Parmi les choses...
Franca Günther.
Ou après, on m'a demandé, il ne faut pas trop lui demander, c'est en rapport avec sa déportation, laisse tomber, laisse le faire. Alors, il sortait tous les jours, se promenait. Qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il neige, il voulait sortir tous les après-midi, se promener. Une autre chose, mon grand-père ne supportait pas être enfermé. Et ma grand-mère n'avait pas le droit de fermer la porte de la maison à clé.
Et donc, mon père a pu survivre.
Anne Essel.
Avec toutes sortes d'épisodes difficiles, mais enfin, il a réussi à survivre. Par contre, Michel Boitel n'a pas été déclaré mort à Buchenwald, puisque c'est Stéphane Essel qui a été déclaré mort le 20 octobre 1944. Et donc, Michel Boitel était disparu. Simplement disparu. Mais aussi bien Stéphane que Balachowski que Kogon, qui faisaient partie de la résistance du camp, et ils se sont battus pour faire reconnaître à la mairie d'Amiens, lieu de résidence de Michel Boitel, son décès en tant que résistant. Et donc ont obtenu finalement la déclaration de sa mort pour la France. Et cette déclaration de mort pour la France à Buchenwald a été enregistrée à la mairie d'Amiens le 10 octobre 1946. Mais ce 10 octobre 1946 est le jour précis de ma naissance. Je suis donc d'une certaine manière la fille à la fois de Stéphane Essel et de Michel Boitel.
Beaucoup de ces dieux ont péri. C'est sur eux que pleurent les saules. Le grand Pan, l'amour, Jésus-Christ, sont bien morts. Et les chats miaulent. Dans la cour, je pleure à Paris. Apollinaire, la chanson du mal-aimé. Stéphane Essel, ô ma mémoire, la poésie, ma nécessité.
Je pense que mon père aurait souhaité que la mémoire de Michel Boitel soit mieux honorée. Nous en avons parlé avec les élèves qui étaient venus avec nous à Buchenwald. Et une dizaine d'élèves se sont mobilisés alors qu'ils n'étaient plus lycéens pour venir avec nous à Amiens pour essayer de voir comment nous pourrions obtenir une reconnaissance de Michel Boitel. Et finalement, on a obtenu la pose d'une plaque pour Michel Boitel sur l'immeuble où il avait vécu, le 8 mai 2024.
Madame, elle n'est pas trop forte. Madame, à la fin de l'année, ça sera sur une vraie radio. C'est ça,
c'est ce qu'on espère. On est en train de tout faire pour que ce soit sur une vraie radio.
C'est pas sûr encore.
C'est pas encore sûr.
Pour aller ramener ici après.
Ramener quoi?
Bah, l'audio.
Ah, les sons, les déposer aux archives. Bah oui, ça pourrait être intéressant.
Ouais, c'est ce que j'ai commencé à avoir. Que ça soit accessible avec un casque dans le hall.
Je
sais pas. Pourquoi pas? De toute façon, on ne sera pas intégralement en allemand, j'imagine. Si?
Bah, non, ça sera en français.
Mais il faudrait peut-être justement réfléchir à un doublage ou choses comme ça. Ça pourrait être une... C'est vrai que pour que ce soit plus accessible. Ouais, pour que ce soit plus accessible, ça pourrait être une...
La suite de notre documentaire, Mémoire de Buchenwald, au prochain épisode.
C'était Mémoire de Buchenwald,
un documentaire sonore réalisé par Pauline Blanchet
et Claire Latsag.
Prise de son et interview,
Sana Abderid,
Aya Ahmad,
Dikra Arstim,
Nora Bengarali,
Amina Falkeita,
Tony Gonsalves,
Abdallah Amouda,
Bastien Card,
Grace Ligue,
Imen Louzi,
Alexa Minic,
Ahmed Mohamed,
Andrei Negutsoyou,
Bridget Pembelen Sigani,
Kemaline Ramachandran,
Sandhya Ramamurti,
Marwa Smaili,
Tuveraka Vineswaran
et Louis Weng. Mixage, Étienne Gracianet.
Suite et fin demain dans le dernier épisode. Soyons curieux.